Bonjour à tous, j'espère que les vacances sont bonnes. Voici l'épisode bonus de l'été. Il aurait dû y en avoir deux, il n'y en aura qu'un. C'est un épisode qui est basé sur des anecdotes qui m'ont été envoyées, écrites par les Patreonneurs. Il y aura beaucoup de musique, il y aura des morceaux en entier. J'espère que vous allez vous amuser autant que moi, ça m'a amusé de le faire. Bonne fin de vacances! Mené par le capitaine Dilligaff, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sgt Pepper, une femelle bulldog français pétomane, le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons, des artistes. Le capitaine Dilligaff n'hésite pas à mélanger classic rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment ? Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ? Le blues a-t-il été inventé par les Blancs ? Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées ? Patti Smith aime-t-elle Morrissey ? Et qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ? Bonne écoute.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Vous savez, quand vous êtes Patreonneur, vous avez un certain nombre de bénéfices. Vous avez des épisodes bonus, vous pouvez participer à des concours et gagner de temps en temps un vinyle ou un beau livre. Mais par-dessus tout, ce qui est vraiment intéressant quand on est Patreonneur, c'est qu'on soutient un projet. Donc il ne faut surtout pas le voir comme quelque chose d'obligatoire ou quelque chose de contraignant. Il faut plutôt le voir comme un signe d'enthousiasme pour filer un coup de main et soutenir le projet. Et aussi, quand on est Patreonneur, on peut avoir un type de bénéfice qui est un peu particulier. J'ai proposé à mes Patreonneurs, qui sont tous des fous de musique, de me raconter une anecdote en lien avec la musique, une anecdote dans leur vie. Et il y en a certains qui se sont prêtés au jeu et qui m'ont donné des textes vraiment marrants ou vraiment tristes ou vraiment, en tout cas, intéressants à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est leurs histoires que je vais vous raconter. On va commencer avec une histoire courte qui a été écrite par Christophe, qui est également l'un des patrons de Station Simone, la meilleure web radio du monde. L'histoire est toute simple. C'est au mois de juin, c'est mon anniversaire et j'ai 13 ans. Mon père m'offre le 33 tours de Supertramp, Famous Last Words. C'est le dernier. Il est somptueux, la pochette est brillantissime et démoniaque. Le dernier titre, Don't Leave Me Now, est absolument à tomber. Jusqu'à enrouer l'électrophone. Et à force, le vinyle est un peu rayé. Surtout sur ce dernier titre de 6 minutes 30. Mon père me dit alors de mettre une pièce de 1 franc sur le bras du tourne-disque pour que le saphir appuie un peu plus et efface à l'écoute les rayures. En fait, c'est pire. Le disque à jamais va sauter à la fin de la chanson et la voix de la choriste Claire Diamant s'en va à jamais. Dans une brume creusée par une pièce de monnaie. Le temps, l'amour de cette chanson. Le saphir croulant sous la voix angélique du diamant. « deuxième anecdote est un texte un peu plus long, un peu plus consistant, écrit par Thomas. Le capitaine a demandé, je cite, une anecdote impliquant de la musique, j'ai eu comme un vertige. Depuis mon adolescence, je passe le plus clair de mon temps à écouter de la musique ou, à défaut, à en avoir en fond sonore. Du réveil au coucher, dans la salle de bain, dans les transports en commun, en faisant mes devoirs, à l'époque ou en travaillant aujourd'hui, je n'ai que ça, des anecdotes impliquant de la musique. Laquelle choisir ? Le texte écrit à ma première amoureuse ? Mise en musique et chantée par un vieux copain, celui-là même qui m'a branché sur ce podcast. L'album Wire Trap Scars de Sparta, que j'ai écouté allongé dans ma chambre, face contre terre quelques années plus tard, juste après l'avoir quitté, mon amoureuse par mon ami de 30 ans. C'est d'ailleurs avec lui que je suis allé voir mon premier vrai concert, entamant une très longue série toujours en cours. Soundgarden, au Zénith de Paris le 9 octobre 1996. On avait aperçu la prof de français 4 ou 5 rangs derrière nous. Mais on lui avait très rapidement laissé les gradins pour aller pogoter dans la fosse. Chris Cornell, paix à son âme, est toujours un de mes chanteurs préférés. Une anecdote impliquant de la musique ? Il en a de bonnes, le capitaine. J'ai repensé à d'autres femmes avec qui j'ai flirté, catégorie qui n'inclut aucun prof de français. La vendeuse du Virgin Megastore qui avait glissé son numéro de téléphone dans le sac contenant mes achats, l'album Astray de Samyam et Is This It des Strokes. L'étudiante en médecine bénévole au Solides qui s'occupait du stand où Cesaria Evora était attendue pour une séance de dédicace et avec qui nous étions finalement embrassés quelques heures plus tard au concert des Tetraed. L'étudiante, hein, pas Cesaria Evora. J'ai repensé à Manu, mon disquaire attitré pour le punk et le hardcore, qui m'a fait découvrir Letterman et tant d'autres groupes. J'ai repensé à mes proches disparus, chacun à sa chanson spéciale, qui me fait penser à lui ou à elle. J'ai repensé au triangle amoureux dont j'ai involontairement été témoin lors d'une fête de la musique. J'ai repensé aux chansons de Beyrouth et Mastodon que je chantais à mon fils prématuré pour qu'il s'accroche pendant les longues semaines où il fut prisonnier de sa couveuse.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons,
Elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui.
C'est maintenant un petit garçon plein d'énergie qui alterne Bobby Lapointe, Amadou et Mariam, David Bowie, Bob Marley et Megadeth sur son enceinte, mais qui rêve surtout d'aller se recueillir à 7 sur la tombe de son idole Georges Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant.
Il s'agit aussi de la seule personne au monde qui trouve que je chante bien. Visiblement, l'amour ne rend pas seulement aveugle, ça rend également sourd. Finalement, j'ai décidé de vous parler de ma meilleure interview. C'était il y a plus de 20 ans. C'était aussi l'âge que j'avais. J'habitais encore chez mes parents. Mes études se passaient bien et me laissaient du temps. Des soirées à arpenter les salles de concert de Paris et sa région, des après-midi à fouiller les bacs de disques, des minutes et des heures à lire la presse musicale, j'ai commencé à écrire des chroniques d'albums. D'abord dans le journal du lycée, où ça n'a pas dû intéresser grand monde, puis dans des journaux d'assaut étudiante. Et puis des sites internet, qu'on n'appelait pas encore des blogs. Avec plusieurs autres personnes, nous avions même décidé de démarrer un webzine. Je me suis alors lancé dans les interviews. Approcher des groupes qui commençaient à avoir du succès, quand on représentait un média qui n'existait pas encore, c'était un petit peu le festival de la débrouille. Par exemple, j'avais pu passer à travers les mailles du filet et approcher Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, en chopant le 06 du batteur, Eric Serratosio, sur le forum du site internet du fan club. Il avait très gentiment accepté que je me greffe au planning des interviews officielles aux grandes dames du manager du groupe qui n'aurait jamais donné son accord. En revanche, là où ça n'a jamais posé aucun souci, c'est pour aller interviewer des groupes de punk. Il y a toujours eu un tas de fanzines punk qui correspondent parfaitement à l'esprit do it yourself de cette scène. Les portes s'ouvraient facilement et avant ou après l'interview, les groupes partageaient volontiers un verre ou une assiette en backstage. C'était souvent simple et bienveillant. Aussi, quand un de mes groupes préférés, que je n'avais encore jamais vu en concert, a programmé une tournée sur le vieux continent en oubliant Paris, j'ai écrit un mail à la division européenne du label pour savoir s'il était possible de les interviewer à Londres. Je pensais me faire jeter ou simplement ne jamais recevoir de réponse, mais j'ai reçu un courrier avec deux places pour le show de Bad Religion du 10 mai 2002 à la Brixton Academy.
Popularity. I'm a member of a growing populace. We enforce our popularity.
peu de contexte. Bad Religion s'est formé au tout début des années 80 autour de trois adolescents qui pensaient que The Clash était le plus grand groupe de l'histoire du rock. Les deux compositeurs principaux, Greg Geffen au chant et Brett Gurewitz à la guitare, accompagnés de Jay Bentley à la basse. Ne trouvant pas de label pour sortir leur première production, Gurewitz fonde Epitaph, qui deviendra notamment la maison de la plupart des grands groupes majeurs de la troisième vague punk des années 90, comme Rancid, NoFX, The Offspring, Pennywise. Le nom Epitaph n'est pas le seul hommage rendu par Gurewitz à King Crimson, puisque parmi les nombreuses chansons composées pour Bad Religion, l'une d'elles s'intitule 21st Century Digital Boy et reprend même trois phrases du 21st Century Schizoid Man de l'outro.
Expressions on the faces of the starting millions of power up and down. The few that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the false sincerity, the formula driven by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs and a pimple that he's inside me. Yeah, we've got the American Jesus, see him on the interstate. We've got the American Jesus, exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day.
Côté musical, le groupe met au point un savant mélange de punk hardcore mélodique qui deviendra un sous-genre à part entière et dont ils creuseront le sillon pendant plusieurs décennies à partir de l'album Suffer, paru en 1988. Diction de Graffin tout aussi rapide que le tempo échevelé des couplets, refrain accompagné de chœurs, surnommés les Who's in Az, texte érudit et militant, le coup de latte et la caresse dans le même mouvement. J'étais donc en route pour Londres, me sentant tel William Miller, l'alter ego du réalisateur Cameron Crowe dans le film Almost Famous, presque célèbre. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire à quel point il est merveilleux, j'espère que vous l'avez déjà tous vu. J'étais donc en route pour Londres, disais-je, pour rejoindre ma meilleure amie de l'époque, protagoniste du triangle amoureux précédemment évoqué, qui passait une année en Angleterre avec mes quatre billets en poche, les deux que j'avais achetés de longue date et les deux offerts par Epitaph Europe, qui, après réflexion, ont finalement terminé encadrés dans ma chambre plutôt que d'être revendus à la sauvette. À vrai dire, mes poches étaient littéralement remplies de billets, car pour ne pas faire le déplacement pour rien, on avait décidé d'enchaîner avec le concert de Tool quelques jours plus tard au même endroit. Je passe rapidement sur l'épisode du SDF qui avait squatté mon lit dans l'auberge de jeunesse pour un fast-forward jusqu'au jour du concert et de l'interview. J'ai été reçu par un Jay Bentley hyper sympa et détendu qui a accueilli mon intimidation initiale et mon sentiment d'imposture avec bonhomie, prenant le temps de répondre aux nombreuses questions que j'avais préparées pendant presque une heure. À un moment, Brian Baker est entré dans la pièce, s'excusant de nous interrompre. Le Brian Baker, qui avant de rejoindre Bad Religion, avait été membre fondateur de Minor Threat et de Dagnasty. Il me demande pardon à moi. Pourtant, on ne peut plus ravi de saisir l'occasion de lui serrer la main.
Yeah.
puis arriva le moment de conclure. Bentley se plia volontiers au jeu des photos souvenirs et accepta gentiment la démo d'un groupe de copains en me promettant de l'écouter. L'histoire ne dit pas s'il le fit réellement. Le concert fut aussi animé qu'on était en droit de l'attendre. Si notre webzine ne vit jamais le jour, mon interview fut tout de même publiée dans le fanzine Préhistorock du label du même nom, qui avait sorti des enregistrements de groupes français comme Second Rate et Uncommon Man from Mars. J'ai eu la chance d'assister à d'autres concerts de Bad Religion depuis 2002, à plusieurs reprises, mais sans avoir le loisir de recroiser de près les membres du groupe. Ma carrière dans la presse musicale ayant déjà touché à sa fin, si je puis dire. Voilà pour mon anecdote musicale, en attendant ma biographie complète bien sûr, qui racontera par exemple comment Rob Crow de Pinback m'a offert un whisky après un concert à la maroquinerie grâce à quelques messages qu'on avait échangés sur Twitter. Merci de m'avoir écouté. On va maintenant retrouver une anecdote courte mais très rigolote de mon ami Marc.
When you're down and trouble and you need a helping hand and nothing or nothing going right, close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night.
You just call. Comment j'ai découvert James Taylor? En 1993, banlieusard accompli et presque majeur, je me rendais souvent au désormais regretté et mythique Virgin Megastore des Champs-Élysées. Plus souvent pour écouter la musique que pour en acheter, presque majeur oblige. Ma tante, d'une dizaine d'années plus âgée que moi, avec qui je parlais régulièrement musique, m'avait interpellé au détour d'une conversation téléphonique à peu près en ces termes. Dis donc, toi qui vas souvent au Virgin, j'écoutais la radio hier et après Cool and the Gang, l'animateur a parlé du dernier disque de James Taylor. Tu peux jeter un œil pour moi et me le ramener ? Très fier de pouvoir lui rendre service, je note James Taylor. Au Virgin, le dimanche suivant, je cherche donc James Taylor et le vendeur m'aiguille et me donne le dernier album de James Taylor, New Moonshine. Je découvre alors James Taylor, un grand, chauve, dégingandé, adossé à un mur avec un étui de guitare. Ok, bizarre connaissant les goûts de ma tante, mais bon, pourquoi pas. Quelques jours plus tard, je lui remets le disque. Elle se marre et me demande si je me foutais pas un peu de sa gueule. Non, pourquoi ? C'est pas James Taylor, ça. Est-ce qu'il a une gueule à être chanteur de Cool and the Gang ? C'est ainsi que je découvris que le chanteur de Cool and the Gang s'appelait aussi James Taylor. J'ai gardé le CD et grâce à James Taylor, le chanteur de Cool and the Gang, j'ai découvert James Taylor, le vrai, celui qui est vraiment intéressant. Voici maintenant l'anecdote de François, qui est une anecdote extrêmement touchante et qui va redonner vie à une période révolue et à un groupe dont probablement plus personne ne se souvient à part lui.
Thank you.
Au départ, c'était à Tours, à la toute fin des années 90. La fin du lycée pour moi. Je jouais de la guitare et je rencontre un mec qui me propose d'intégrer son groupe de punk rock, Booby Hatch. Le guitariste vient de partir et comme je me débrouillais pas trop mal, j'ai pu intégrer le groupe. J'ai pu apprendre les morceaux. Booby Hatch intégrait dans son répertoire des morceaux de reggae tels que pouvaient en faire des groupes comme les Burning Heads, NoFX ou Millencolin. En fait, le répertoire reggae de Booby Hatch a pris de plus en plus de le pas sur le punk rock. Il y avait à cette époque de plus en plus de groupes de ska reggae, Ruda Salska, notamment en Touraine, qui nous avait beaucoup soutenus, les Mad Caddies, Scapé, etc. Nous décidons avec Booby Hatch de ne plus faire que du ska reggae. Nous avons eu notre petit succès local, voire national, n'ayons pas peur des mots. Au début, les gens nous avaient remarqué lors d'un concert au Rado, un bar minuscule où un groupe de ska avec des cuivres prend plus de place que le public, et on a commencé à nous programmer pour faire des premières parties. Lors de nos premiers concerts, il y avait toujours un groupe qui était là. Les membres étaient plus âgés que nous, plus intégrés dans les réseaux de concerts, et la radio locale, Radio Béton, la radio des nains qui sont cons, c'était leur slogan, ils faisaient du ska reggae depuis plus longtemps que nous. Et ils s'appelaient les Witotos. W-I-T-O-T-O-S. C'était pas le groupe du siècle. Ça jouait pas de manière extraordinaire, et c'était assez potache. Du ska et du punk basique, un peu à la Ludwig von 88. De l'alterno. On est parti à l'île de Ré, et tous les jours, et toutes les semaines, et tous les mois, et tous les ans, il y a des gens pas contents exploités par d'autres gens. Voilà le genre de parole, une caricature du genre. D'ailleurs, on était un peu méchants car on se foutait un peu de leur gueule dans leur dos, tellement la musique n'était pas très fine et les textes un peu neuneux. Mais ils avaient tracé un sillage à Tours et Booby Hatch était sur le même.
Fantastique histoire du convoyeur de fond. Plus joue dans son camion, mais plus méchant que le Cro-Magnon, il traverse la ville à fond, ne craignant pas les coups de plomb. En ceinture, on la sueur qui coule du front, qui descend jusqu'au caleçon du convoyeur de fond.
Les gars étaient vraiment sympas, joyeux. Et comme on venait tous de dépasser nos 18 ans, on faisait la fête avec eux en buvant beaucoup de bière. Mais eux, ils en buvaient des quantités vraiment phénoménales. On les retrouvait sur les parkings des salles de concert les plus miteuses et ils se bourraient la gueule à coups de valisette de Cronenbourg au cul d'une voiture avec le coffre ouvert, leur bar officiel. Ils n'arrêtaient pas. Entre nous, lorsque nous voulions boire une bière, on disait « Hey JC, t'as une canette ?» JC, c'était le nom du batteur. Et on était pété de rire par leur réputation de nul alcoolique. Dans les Witotos, il y avait le chanteur-guitariste Fred. En fait, celui qui écrivait tout, qui avait de l'ambition, qui poussait le groupe vers l'avant et qui permettait au groupe d'avoir son petit succès. Il était hyper gentil, le cœur sur la main. Un jour, en septembre 1997, ils sont partis dans le Pas-de-Calais faire un concert dans une salle miteuse qui sentait la bière, la clope, avec le sol qui colle. C'était au tour des Witotos de jouer. Premier morceau, riff d'intro, c'est le moment de chanter. Le chanteur empoigne le micro et paf! Fred, en approchant sa bouche du micro, se fait électrocuter et meurt sur le coup, sur scène. Problème de prise de air. Après cette histoire, les Witotos ont continué à jouer en l'honneur de la mémoire de Fred. Puis ça s'est arrêté. J'ai vu sur le net qu'il s'était reformé pour un concert en 2013, mais à chaque fois que je pensais à eux, je pensais à Spinal Tap. Vous savez, là où les batteurs explosent. Ça nous a foutu un coup, et on faisait vraiment gaffe des conditions dans lesquelles on jouait après ça. Voilà, c'était une pensée émue pour cette époque dans les environs de Tours, à la fin des années 90.
Show you. Now y'all heard of the popcorn, y'all heard of the dog, and you heard about all of them other dances. But now that's a brand new dance that's going around. I want to show you exactly what I'm talking about. I'm talking about the funky chicken. Y'all ready? I say y'all ready. Okay, here we go. You raise the left arm up. Right on too. Let me tell you just what to do. Start boom on the flapping. Start the feet to kicking. That's when you know you're doing the funky chicken. Second spasm. You put both arms up across your face. Your knees start wiggling all over the place. You flap your arms and your feet start kicking. Then you know you're doing the funky chicken. Oh, hey. Hey, hey.
Pour finir, mon anecdote à moi. Pour pouvoir raconter mon anecdote, j'ai eu besoin de passer un coup de fil à un ami. J'avais besoin de remettre certaines choses dans l'ordre et aussi être sûr du line-up de certains concerts dont je ne retrouvais pas la trace sur Internet. Car oui, cette anecdote démarre il y a très longtemps. En 1992, pour être précis. L'ami que j'ai appelé, c'est Gilles. Gilles est un music buddy de la fin de mon adolescence. On s'était connu par le biais de Charlie, celui qui mixait la première saison. Et comme lui, comme moi, étions passionnés de musique, on s'était trouvé plein de choses en commun, en dehors de Charles. Gilles avait deux passions dans la vie, la musique et le cinéma. Il m'a fait découvrir la Cinémathèque et m'a traîné voir un nombre incalculable de films qui m'ont tellement marqué, à commencer par La Nuit du Chasseur et sur grand écran. Côté musique, nous étions tous les deux de grands fans de blues. Attendez, hein, j'ai pas dit qu'on était des experts, j'ai dit qu'on était des fans. Deux petits blancs, la vingtaine, avec des goûts de boomer. Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, John Mayall, Johnny Winter, et nous étions persuadés de tout savoir sur tout. Étant donné que les gens de notre âge écoutaient plutôt George Michael ou Madonna, il y a encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, vous connaissez la chanson, hein. Et d'ailleurs, je crois que le couplet finit par « Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. » Bref, on était des petits cons, mais des petits cons ayant soif d'apprendre. En 1991, Gilles était allé à un concert sur l'île Saint-Germain qu'il avait trouvé incroyable pour le lieu et puis pour l'affiche. Buddy Guy, B.B. King, James Brown.
One, two, three, four.
C'était un festival organisé par la marque de cigarettes Winston. Du coup, en 92, il m'a dit « il faut absolument que tu viennes ». Et c'est comme ça que l'année 92 est devenue une année charnière dans ma vie musicale. Cette année-là, nous avons fait 4 concerts. Enfin, pas seulement 4, hein, mais ces 4-là ont été d'une importance capitale. Le 27 juin, concert à la Villette, sous la Grande Halle. À l'affiche, The Blues Brothers Band, Rufus Thomas et Johnny Adams, habillés en smoking blanc. Gilles et moi sommes en avance au concert. On est surtout venus pour voir les Blues Brothers. Avec Steve Cropper à la guitare, Donald Duckdon à la basse, Blue Lou Marini au saxophone et la section cuivre de folie. On est dans la fosse au premier rang. Au pied de la scène, derrière la barrière, il y a un gars qui doit avoir une cinquantaine d'années avec un appareil photo autour du cou, genre photographe de presse. Il commence à discuter avec nous pour faire passer le temps. Et le type est super sympa. Il a une espèce de barbe à la Chris Christopherson, mais en plus broussailleuse. Il me demande du feu. Oui, à l'époque, je fumais. Et on commence à discuter. Et là, il nous parle de Rufus Thomas. Nous n'avons aucune idée de qui c'est. Et là, c'est la révélation. Il nous explique. Rufus Thomas, c'est un chanteur de rhythm and blues, de funk, de soul, de blues. Un auteur-compositeur, un danseur, un DJ et aussi une sorte d'artiste comique qui vient de Memphis, dans le Tennessee. Il a commencé sa carrière comme DJ, il a été l'un des premiers à passer les disques d'Elvis à la radio, il a souvent été qualifié de plus vieil adolescent du monde, et il est aussi le père de Carla Thomas, avec laquelle il a enregistré des duos, et qui a elle-même enregistré un disque de duo avec Otis Redding. Et là, on est sidéré. Comment est-ce qu'on pouvait ignorer un truc pareil? Et là, l'animal arrive sur scène. Il faut imaginer un monsieur black, chauve, avec une couronne de cheveux blancs et un collier de barbe, habillé d'une sorte de costume vert-bouteille en lamé, et dont le pantalon est, non pas un pantalon, mais un short en lamé vert. Et le type rentre sur scène en battant des bras et en faisant le poulet. Il se met à chanter une chanson qui s'appelle Funky Chicken. Ensuite, il chante en aboyant. C'est la chanson Walking the Dog que nous connaissons parce qu'on connaît la version des Stones. Le photographe barbu nous fait remarquer que le guitariste, qui semble aussi être le band leader, n'est autre que Michael Tolles. On se regarde. Michael Tolles, c'est qui ce mec-là? Il se dépêche de nous préciser que c'est l'un des guitaristes de la BO de Shaft. Qu'il avait 15 ans à l'époque de l'enregistrement. On est sidéré. Rufus Thomas fait un show de malade et nous laisse à genoux. On est à deux doigts de se dire que finalement, le reste du concert, on s'en branle un peu tellement on a passé un bon moment. Et c'est là qu'arrive Johnny Adams. Le crooner soul de la Nouvelle-Orléans. Notre photographe barbu nous brief rapidement. On l'a surnommé The Tan Canary. Traduction, le canari bronzé. Bonjour le racisme. En raison de la tessiture à plusieurs octaves de sa voix et de sa manière de chanter, de son falsetto inimitable. Il est plus sensuel que Marvin Gaye et Barry White réunis, et en plus, il a l'air un peu dangereux. On dirait franchement un maquereau qui est en train de chanter. Il est incroyable. Je suis sidéré. Puis vinrent les Blues Brothers, et c'était bien, c'était sympa, mais on va dire beaucoup plus conventionnel, beaucoup plus balisé. Quel concert! Le deuxième concert, trois jours après, est une affiche assez incroyable. Le 1er juillet 1992. Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, Jerry Lee Lewis. Vous allez me dire, putain, t'as vu Little Richard sur scène? La réponse est non, en fait, car il a annulé à la dernière minute. Il y a bien eu une rumeur de remplacement par Fats Domino, mais finalement, le quatuor de légende s'est mué en trio. Prévu initialement à l'île Saint-Germain d'ici les Moulineaux, comme les concerts de l'année précédente, il a été, pour des raisons de sécurité, décalé au 1er juillet à Bercy. Gilles et moi sommes en avance au concert, dans la fosse au premier rang, et on attend de pied ferme les légendes. Notre ami, le photographe, est encore là. Et il vient nous voir et nous dit « Je me demande bien qui va passer en premier. » On lui dit « Bah, pourquoi, c'est important ?» Et là, il nous raconte une anecdote incroyable. Dans les années 50, lors des tournées rock'n'roll incessantes, Chuck Berry et Jerry Lee Lewis se sont retrouvés sur la même affiche, lors d'un concert important. Et les deux voulaient passer en dernier. Bah oui, c'est toujours la grosse vedette qui passe en dernier. Les autres, ils ne font que ouvrir pour elle, chauffer la salle. Et c'est pas pour hasard qu'aujourd'hui, la première partie, c'est des gens moins connus que la partie principale. Donc les deux veulent passer au dernier. Le ton monte, aucun des deux ne veut lâcher l'affaire, on tire à pile ou face. C'est Chuck Berry qui gagne. Ce sera donc lui, la vedette, qui passera en dernier. Jerry Lee Lewis est foudrage, furieux, vexé. Et un bon sudiste caractériel, pédocriminel, ça n'a rien à voir, mais faut le repréciser, alcoolique, raciste, il ne l'entend pas de cette oreille. Il monte donc sur scène, chauffe la salle, joue comme un dingue, en utilisant tous ses trucs, le coup du coup de pied, du pied sur le piano, du coup de pied dans le tabouret pour l'envoyer valser, et pour finir, il vide un bidon d'essence à Zippo dans le piano, craque une allumette, et finit son dernier morceau en jouant sur un piano en feu. Autant dire que la salle est chaude, pour ne pas dire hystérique. L'anecdote pourrait être à l'avantage de Jerry Lee, mais en sortant de scène, il crache sur les godasses de Chuck Berry et lui dit avec beaucoup de mépris « Top that, nigger !» ce que l'on peut traduire par « Essaye de faire mieux, négro !» Ce soir-là, le concert, le nôtre, fut fabuleux. Chuck était au top de sa forme. Il a arrêté le concert pour se plaindre parce que quelqu'un avait pris une photo. Il est parti en coulisses. Le photographe, à ce moment-là, nous a expliqué qu'il était coutumier du fait, c'était son truc. Il chauffe la salle avec trois chansons, il fait une esclandre sous un prétexte débile. Ce soir-là, c'est « Non, non, vous n'avez pas le droit de prendre une photo ». Il court en coulisses et demande une rallonge pour retourner sur scène. Je ne sais pas s'il a eu gain de cause ce soir-là, mais en tout cas, il est revenu. Puis Bo Diddley a fait un show génial, drôle, généreux. Et pour finir, le killer, Jerry Lee Lewis, est monté sur scène faire son cirque. Et tout s'est terminé par un medley bien mignon avec les trois ensemble. C'était un chouette concert. Le 2 juillet, le lendemain, nous aurions dû voir Etta James, mais elle a eu des problèmes de santé et le concert a été annulé. Nous aurons notre revanche le 24 octobre de la même année à l'Élysée-Montmartre avec un concert incroyable. Le 6 juillet, le Heineken Jazz Festival avait organisé un concert à l'affiche très riche. Oui, quand ce n'était pas des concerts sponsorisés par des clubs, c'était des concerts sponsorisés par de la bière. Dr. John, Willie DeVille, John Campbell, Chris Whitley et les Wild Magnolias. Je passe rapidement sur Chris Whitley qui a fait une prestation très longue, très flottante. Il n'avait pas l'air trop dans ses pompes, pas vraiment au meilleur de sa forme. Par contre, John Campbell m'a fait une impression durable et sa mort quelques mois après m'a laissé inconsolable. Mais le gros du concert étaient les artistes de la Nouvelle-Orléans. En fait, le concert s'appelait New Orleans Review. Dr. John, Willie DeVille, les Wild Magnolias. Je crois que c'est cette nuit-là que j'ai compris le sens du mot « groove ». Thank you. même soir, dans la fosse, le photographe était encore là. Discussion, information, passion. Je tombe immédiatement amoureux de la musique de la Nouvelle-Orléans. Pour toujours. Et dans le futur, je reverrai Dr. John en concert de nombreuses fois, et Willie DeVille aussi. Et lors de cette conversation, le photographe nous donne son prénom. Il s'appelle Jean-Pierre. Et il nous donne une deuxième information qui, celle-ci, est capitale. Photographe de presse musicale, c'est son hobby, son passe-temps. En fait, son vrai métier, c'est disquaire. Alors évidemment, quelques jours plus tard, je débarque dans sa boutique, à Levallois-Perret. Le nom de la boutique, Boogie, 61 rue Louise-Michel, à l'angle. Jean-Pierre m'accueille dans une boutique qui ressemble à toutes les autres. Hein. Publicité sur le lieu de vente de Bachung, Céline Dion, du dernier coffret de Johnny Hallyday. Mais il m'emmène dans un coin sur la droite où il y a toute la musique noire américaine. Blues, funk, New Orleans, gospel, un peu de jazz, rhythm and blues, soul. C'est juste incroyable. Je lui recasse donc les burnes avec Clapton et Steve Ray Vaughan et il me dit « Écoute, Diama, c'est une bonne passerelle, c'est bien, mais il faudra peut-être écouter les vrais, ceux qui sont à l'origine, ceux à qui Clapton a tout piqué. » Ce jour-là, je suis reparti avec un disque de Percy Mayfield, un disque de Freddie King et un disque d'Albert King. One big fight. Je suis assez régulièrement retourné à la boutique dans les années 90 et il m'a fait découvrir un nombre incroyable de choses. C'est lui qui m'a parlé pour la première fois de la vie de Johnny Otis, qui m'a fait aller au-delà du blues qui sent un peu trop le savon. Et je me rends compte aujourd'hui que sans Gilles, qui m'a emmené à ses concerts, et sans la rencontre avec Jean-Pierre, ce podcast probablement n'existerait pas. J'ai perdu Gilles de vue et la vie a fait que j'ai arrêté d'aller à Levallois. J'ai retrouvé Gilles par hasard il y a 4 ou 5 ans et nous avons évoqué tous ses souvenirs, évidemment. Il m'a raconté la fois où, lorsqu'il parlait avec Jean-Pierre dans la boutique, il a entendu des cris, des borborygmes, des ululements venant de l'arrière-boutique. Il s'est demandé ce qui se passait et Jean-Pierre lui a calmement dit « Non, mais t'inquiète pas, c'est juste Jay qui cherche sa bouteille. Jay ? Ouais, Screamin' Jay Hawkins, il vient tous les jours. C'est un copain, il habite juste à côté. » Et oui, vous pouvez vérifier, Screamin' Jay Hawkins a fini sa vie à Levallois.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
Lors de cette conversation, Gilles m'a donné le nom de famille de Jean-Pierre que je ne connaissais pas. Il s'appelait Jean-Pierre Arniac. C'était un vrai passeur de musique, un vrai passionné. Il a été photographe pour le journal Soulbag pendant de nombreuses années. Et ça a été un disquaire de talent et il avait une boutique extraordinaire. J'ai appris en faisant une recherche qu'il était décédé en 2017. Rest in peace Jean-Pierre et merci pour les conseils et la belle musique.
things you do. What's up? I lie. Oh! Oh! I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I'll put a spell on you. Because you're mad.